Il m'a déçu cet après-midi. Je pensais qu'il allait m'annoncer une nouvelle incroyable et que Manny Ramirez débarquait à Québec. Quoi qu'il en soit, ben c'est une décision quand même. Il a certainement travaillé très fort, connaissant le bonhomme. C'est Michel Laplante qui a annoncé conjointement avec les Aigles de Trois-Rivières qu'il n'y aura pas de saison des Capitales et des Aigles en 2020. En ligne, le président des Capitales, Michel Laplante. C'est Michel?
Salut.
D'abord, évidemment, je t'ai entendu un peu partout avant d'enregistrer le podcast. Ça n'a pas dû être une décision difficile pareil à accepter parce que compte tenu que j'ai essayé autant comme autant de te rejoindre, tu as dû voir ton cellulaire quand on a entendu parler de Manny Ramirez. Ça veut dire que le bonhomme travaillait fort pour avoir la saison, là.
Oui, en fait, je pense qu'on n'a jamais lâché depuis le début du COVID en milieu de mars. On a toujours souhaité quand même que les choses s'arrangent, puis penser qu'on peut organiser une saison. Je dirais que dans les 3 dernières semaines, on est venu même très positif parce qu'on pensait que c'était possible. Mais finalement, là, la sage décision, c'est de dire, écoute, oui, on souhaitait présenter quelque chose avec 25% d'assistance, avec un bon calibre de jeu, puis tout ça. Mais ça impliquait trop d'incertitudes. Malgré la pluie qu'on avait, puis tout ça, c'était difficile de promettre aux joueurs qu'ils allaient jouer. On pensait à des joueurs en quarantaine, on pensait avec des autorisations de joueurs canadiens qui sont dans le baseball affilié pour leur offrir la possibilité de venir jouer, il fallait qu'il y ait le consentement total d'organisation. À travers tout ça, ben, il y a évidemment les règles de la santé publique qu'il faut respecter. Écoute, jusqu'à hier, on y croyait, mais à partir d'hier soir, puis ce matin, où il fallait peut-être passer encore une autre fin de semaine à attendre certaines réponses, on a décidé que le projet était rendu un petit peu trop tard, puis que l'entier était plus contrôlable.
Et ça, c'est évidemment, tu as travaillé fort. Dis-moi, je t'entendais sur les ondes du 91.9 tout à l'heure dire que c'était des pertes quand même pour les capitales d'à peu près 2 000. Une saison, normalement, c'est 2 millions de. Puis là, il faut que tu engendres bien des frais avant d'avoir un seul revenu, des revenus de billets et des revenus de commandites et ainsi de suite. C'est très difficile pour les capitales, là, compte tenu. Je pense aux Aigles aussi, qui ont été sauvés de peine et de misère l'année passée. Ça va être très difficile, là.
Oui, c'est très difficile. Puis en même temps, ben écoutez, je dis pas que quand on se compare, on se console, sauf que on garde la situation au niveau local, au niveau régional, au niveau national, au niveau mondial. Tout le monde souffre. Donc, à un moment donné, tu fais une petite rétrospective, tu te dis, bon, c'est du baseball, c'est de l'entertainment, on est dans le trouble, on l'avoue, en présentant pas de saison. C'est très, très difficile. En présentant une à déficit, c'était difficile de toute façon. Mais c'est la vie. C'est comme ça que c'est fait. Puis je pense que dans les situations comme celles qu'on a vécues dans notre petit cas particulier, là, dans notre équipe de travail, et c'est ce qu'on s'était dit il y a quelques mois, c'est que si tu veux avoir le sentiment d'avoir, ben, pour être bien dans ta peau, dans tout ce que tu as fait, c'est d'être allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait aller. Et je regarde mon staff, je regarde tous les gens qui nous ont appuyés, que ce soit la Ville de Québec, de Trois-Rivières, la Fédération de baseball Québec, même au niveau du gouvernement, on nous a soutenus dans tout ça. On peut se regarder, c'est-à-dire on a tenté d'être créatif, on a tout fait pour répondre aux nombreux emails, aux souhaits de nos fans qui voulaient avoir du baseball. Ça a simplement pas marché parce que c'est pas la faute de quelqu'un, c'est la faute du COVID, dans le fond. Est-ce qu'on aurait pu répondre mieux à plus de choses? Sûrement qu'on n'a pas été 100% optimal, mais je pense qu'on a tout fait ce qu'on était capable de faire pour tenter d'y arriver, puis ça n'a simplement
C'est
pas
quoi qui a
fonctionné.
bloqué en fait? C'est la santé publique, c'est les joueurs, c'est où le problème finalement?
Non, en fait, la santé publique, c'est très facile à chaque fois puis il y a certains cas qu'on voit aller par les médias, où qu'on est en désaccord avec la santé publique. Je m'en cacherai pas. Il y a certaines choses que je vois que je suis en désaccord. J'ai manifesté d'ailleurs il y a quelques semaines, j'aurais aimé qu'on fasse jouer les enfants plus rapidement. Mais dans notre dossier à nous, la santé publique n'a pas à se reprocher. Chose honnête, on nous a aidé à monter un cahier du baseball majeur où ce que le protocole était bien suivi. Mais écoutez, c'était pas possible. On comprend les enjeux à la santé publique dans ce dossier-là. Il y a probablement énormément de dossiers devant eux, mais j'ai l'impression qu'ils ont tenté de nous répondre le mieux qu'ils pouvaient. Maintenant, nous, on doit se retourner avec ces réponses-là et dire aux joueurs du professionnel, voici c'est les conditions que vous allez devoir répondre si vous venez faire une quarantaine ou si vous venez jouer. Et ensuite, de respecter tout ça, puis de promettre aux joueurs qu'on va avoir une saison, alors que quand il arrive, il peut faire son 14 jours de quarantaine, et finalement, il y a un cas ou deux, puis il ne joue pas du tout. Donc, ça devenait trop de pression, trop difficile pour tout le monde. Mais je dirais qu'au niveau des équipes du baseball majeur, il y a manqué de rigueur de leur part. Pour des équipes qui se faisaient offrir sur un plateau d'argent la chance de voir leurs joueurs...
Plus au sérieux, peut-être, ou...
Ouais, je sais pas. C'est peut-être mal comprendre le projet au début.
Ouais.
Mais en fait, on prend le joueur professionnel des mineurs, puis on les nourrit, on les loge, on les offre un environnement professionnel sur des terrains professionnels pendant 45-50 jours, sans leur demander rien à part l'accord de leur permission. Ils ont manqué, pas tous, parce qu'il y a des organisations qui ont été très rapides à répondre, mais certaines d'entre elles ont été, je sais pas, paresseuses ou manque de rigueur pour regarder c'était quoi les conséquences de ce dossier-là qui finalement ne voit pas le jour.
OK. Dis-moi, là, à partir de maintenant, M. Lapin va sûrement prendre des vacances parce qu'il a travaillé très fort, j'imagine, mais après les vacances, ça va être quoi? Ça va être de sauver la concession?
Oui, absolument. J'ai l'impression que elle a été sauvée plusieurs fois, puis est en plus belle situation quand je parle au niveau de la Ligue. Donc, cette année, on jouait dans une Ligue à 14. L'année prochaine, probablement qu'il va y avoir encore plus d'équipes dans la Ligue que ça. On a stabilisé l'infrastructure. Ça veut dire le stade à Québec, il va bien. Trois-Rivières va mieux aussi. On l'a senti par l'appui des gens. Donc, au niveau de la visibilité, puis ce que les capitales ont besoin, c'est là. Évidemment que les derniers revenus sont entrés le 26 août 2019, puis les prochains vont avoir lieu au mois de mai 2021. Donc, si vous faites le calcul de 20 mois d'espace entre les deux, c'est pas une situation qui est facile. Donc, il va falloir être créatif, il va falloir être appuyé. On parle pas de millions de dollars ici, c'est moins que ça. Mais je pense qu'on a été capable de garder la tête hors de l'eau pendant un bon bout de temps, mais ça va être difficile de garder la tête hors de l'eau dans les prochaines semaines, les prochains mois, puis il va falloir avoir une petite bouée quelque part. Puis,
le gouvernement, la Ville de Québec?
Ben possiblement. Je veux dire, on avait 100% de notre énergie vraiment sur jouer dans les derniers jours, dans les dernières semaines. On va prendre un petit 2-3 jours de recul, regarder comment on se repositionne à tête reposée, puis après ça, on verra si on est capable d'avoir de l'appui de quelque part.
Avant de parler de Manny Ramirez, je veux parler de la Ligue Frontier. La Ligue Frontier qui a annulé sa saison en passant. Ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire qu'il y a des équipes aussi qui vont avoir de la misère à s'en sortir là, du côté de la Ligue? Comment ça va, les équipes? T'as-tu des nouvelles là-dessus?
En fait, Danny, que ce soit au niveau du majeur, au niveau de toutes les équipes de mineurs, de tous les sports dans le monde.
Ouais, tu sais pas.
C'est carrément tragique, là. Je veux dire, comment oubliez pas que le fonctionnement de n'importe quelle équipe sportive, c'est que les mois avant, c'est énormément d'investissement pour livrer un produit du premier au dernier match.
Ouais.
Et là, on est dans une situation où on présente du baseball au mois de mai, donc à partir du mois d'octobre. Tu mets en marche toute la machine pour présenter 7-8 mois plus tard. Donc, c'est des dépenses que tu engendres pendant 6-7-8 mois. Et finalement, quand tu arrives pour récolter le fruit, ben, il n'y a pas poussé. Donc, ça va être difficile pour tout le milieu événementiel, tout le milieu sportif. Ça ne sera pas facile, mais on a eu un meeting mercredi passé, les propriétaires d'Aligue Ensemble et chacun ont dit qu'il allait voir du baseball en 2021. Évidemment, il ne faut pas être frappé par une autre crise au printemps 21, mais ils ont tous l'intention parce que, en fait, il y a quelque chose qu'il faut se réjouir. Si tout ça arrive il y a 6-7 ans, quand on est à 4-5 équipes, la Ligue est en difficulté, c'est la fin du baseball à Québec à Trois-Rivières. Là, c'est pas ça qu'on voit. Là. On voit de plus en plus d'équipes qui veulent se joindre à la Ligue et notre modèle d'affaires est bon. Donc, je pense qu'on va avoir du baseball dans 8 mois d'ici.
OK. Manny Ramirez, maintenant, c'était-tu sérieux, ça?
Oui, complètement. En fait, c'était sérieux à partir du mois de mars.
OK. Ça n'avait pas été coulé. Ça n'avait pas été coulé.
Oui, en fait, ben, le COVID a tout pris la place, puis c'était bien qu'on a fait notre affaire, mais dans la deuxième semaine du mois de mars, Manny Ramirez est venu visiter la compagnie B45 de bâtons, parce que c'est les bâtons qu'il utilisait quand il jouait à la fin de sa carrière. Et ça faisait plusieurs mois qu'il disait « Ah, je vais aller faire un tour », puis il est apparu. Et dans un séjour de 2-3 jours à Québec, il a adoré la ville. Un des propriétaires de B45, Kevin Price, il a visité la shop avec lui. Ils ont parlé d'actionnariat parce que c'est quelque chose qui l'intéresserait. Et évidemment que ça a glissé sur « Écoute, j'aime Québec. Moi, je viens de repasser un étage au baseball ici. » Puis là, ça a viré dans un « Pourquoi pas ?» Et quand il a entendu ça, il a dit « Oups, il y a une ouverture. » Et les jours qui ont suivi, les semaines, quand il est reparti chez lui, il a envoyé des petits textos. « Hey, j'aurais-tu une place? Est-ce que ça serait possible? » Puis là, on lui a demandé « Ben écoute, tu planifies quoi? » Ben, il avait joué en Asie l'année d'avant, au Japon. Et là, il disait « Moi, j'irais volontiers passer un été à Québec, mais une des choses que j'aimerais faire, c'est jouer avec mon fils. » Son fils, je pense qu'il avait 23, 24 ans.
Okay.
Et donc, lui, ce qui était conditionnel à ça, c'est qu'il puisse jouer avec son fils. Il avait joué universitaire, son fils, puis il avait joué seulement un peu professionnel, mais il disait « Ce serait une belle façon de finir ma carrière à Québec avec mon fils. » Donc, on avait comme un accord à la mi-mars qu'il regardait ses options en Asie, qu'est-ce qu'on allait lui offrir. Et il se gardait l'option de Québec ici. Puis il y a à peu près 2 semaines, tout ça a repopé. Parce qu'il a envoyé un petit texto, puis il a dit « Est-ce que vous allez jouer? Are you guys gonna play? » Fait que on a reparti la conversation. Puis M. Price est revenu avec des conversations avec lui. Puis il y a quelques jours, il a dit « Ok, ben moi, si jamais ça joue à Québec, je vais être là. »
Ben, tu l'avais-tu vu frapper? Tu l'avais-tu vu? Parce que moi, écoute, j'ai dit « Wow! » Parce que juste pour le... Pas du côté baseball, côté marketing. Moi, ça aurait été excellent. Là. J'aurais vu ESPN. C'est sûr qu'ESPN et les Athletics seraient descendus à Québec pour venir le voir. Est-ce que tu l'avais vu? Mais comme joueur de baseball, je sais pas. T'sais. C'est un gars qui était gros, c'est un gars qui a les blessures à l'aine et les blessures à 47 ans. Mais tu l'avais-tu vu jouer? Tu l'avais-tu vu?
En fait, il faut être prudent hein, sur sa forme physique parce que ce qu'on fait dans ce temps-là, Daniel, c'est qu'on appelle plein de gens, que ce soit Russell, que ce soit Eric Gagne, ces gars-là qui l'ont côtoyé, qui ont joué avec. On a vraiment une mauvaise perception de Manny Ramirez. En fait, pas mauvaise négative, mais pas la bonne. Parce que Manny portait des vêtements slack, lousses, on avait l'impression que c'était quelqu'un qui était gros. C'est, selon à tous les gens qu'on a parlé, j'ai parlé même à un joueur qui a été coéquipier avec lui, et puis après ça, il a travaillé dans une clinique de lui. C'est probablement la personne la plus rigoureuse sur un terrain de baseball que les gens n'ont jamais vu. Ça, j'ai resté sur Eric Gagné, il l'a confirmé. Tu ne comprends même pas à quelle heure qu'il arrive au terrain, puis comment il frappe de balle d'une journée, puis comment il s'entraîne. Manny Ramirez, c'est quelqu'un de très cote. Et Olivier Lépine, qui travaille chez D45, quand Manny est allé le voir, il a été surpris comment c'est un gars de seulement 200 livres. C'est pas un gars si grand et si gros que ça. Donc, pour tout le skier comme record dans le baseball majeur, c'est fou les statistiques qu'il a mis. Donc, tu t'attends. Et très en forme. Et à un moment donné, Olivier, c'est ce qu'il m'a dit. Il a dit, Michel, il dit, je sais pas depuis quand il s'entraîne en forme. Fait que là, après ça, on a Éric Gagné qui est impliqué dans des gardiens. Il a toujours été comme ça. Et son éthique de travail pour lui, il dit, il connaissait tous les lanceurs adverses. Il étudiait tous les lanceurs adverses. Il avait son cahier. Il avait ses choses comme ça. Il savait tout ça. Manny s'est créé un personnage parce qu'il était drôle, puis à un moment donné, il est allé pisser proche du monstre vert avec les Red Sox durant une game, puis là, ça a fait jaser, puis tout ça. Il faisait beaucoup d'affaires qui étaient lunatiques, mais son éthique de travail était irréprochable. Donc, on a été vérifié ici dans les dernières années ce qu'il avait fait au niveau du Japon. Fait que ses statistiques étaient encore très élevées, encore très là. Moi, je pense que à 47-48 ans, on n'aurait pas vu des balles frappées à 500 pieds. Là. C'est pas ça qu'on aurait vu avec. C'est pas ça qu'on a vu ici. Je pense que au niveau de son éthique de travail, son élan qui a toujours été fluide, ça, il paraît que c'est encore là, avec un peu moins de puissance qu'il avait à l'époque.
Ben moi, Michel, là, c'est drôle, hein. J'ai pas rien j'ai aucun conseil à te donner. Et pour l'année prochaine, vous allez avoir besoin de quelque chose. Manny Ramirez va dire une affaire pour relancer le baseball à Québec, juste le nom. Les commanditaires vont être après. Ça va être aussi gros, sinon plus gros qu'Éric Gagné. Il me semble que je le relancerai. Moi, pour l'année prochaine, je sais pas. C'est toi qui sais, mais il me semble que ce serait génial. Là.
Ouais, moi, je suis toujours prudent dans ces choses-là.
Ouais.
Donc, s'il y a une volonté d'être ici parce qu'il est en forme, puis là, ce qu'il a vraiment, comment je pourrais dire ça, là où il y a eu beaucoup d'éclats, c'est quand on a dit, ben oui, viens jouer avec ton fils. Là, il est comme, il tripe sa ville de Québec, il veut venir passer un été avec son fils. Ça, c'est quelque chose qui lui plaît, puis tout ça. C'est un personnage, tu as tout à fait raison, c'est un personnage hors du commun. Et si vous avez la chance d'aller voir ses statistiques sur Baseball Référence, on a oublié jusqu'à quel point c'est probablement un des 5-10 meilleurs frappeurs de l'histoire, statistiquement parlant. Puis, je vous le dis, là, c'est très, très étonnant parce que c'était les mêmes années que Barry Bonds. Donc, on avait tendance à dire que Barry Bonds est le meilleur frappeur de l'histoire. C'est vrai que les statistiques de Barry Bonds sont incroyables, mais c'est vraiment spécial quand tu regardes ça, de dire qu'on compte en de saison de 140, 150 points produits, ou ce qui frappe 350 ou 340. C'est vraiment incroyable. Et tout ça de façon colorée, parce qu'il laissait personne indifférent, parce qu'il semblait drôle, sympathique. Donc, pourquoi pas? On va
Ben moi, je vais
regarder ça.
relancer, mais c'est drôle, en tout cas, c'est toi qui sais, sauf que les commanditaires, juste le nom, j'imagine que tu as dû le voir, quand ça a sorti, c'est mardi, ça a sorti dans le soleil. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y avait de l'enthousiasme, là.
Ouais, je pense que les gens aimaient ça. Ils ont dit pourquoi t'as pas sorti ça avant? Puis ça nous aurait mis un peu de couleur dans le COVID, mais on a voulu garder ça. On y avait promis qu'on n'en parlerait pas. Il sait qu'aussitôt qu'il dit qu'il va à quelque part, ça crée un certain boom, puis tout ça, mais on n'a pas voulu, surtout dans une saison qui allait
Ouais.
tout au long d'être installée, on ne voulait pas faire de fausses attentes aux gens.
Sans nommer de nom, ça t'as-tu déjà arrivé d'avoir eu des gros noms, des noms connus par le public qui t'ont approché, à part Éric Gagné, à part Manny Ramirez, qui t'ont approché à Québec pour venir jouer? Des noms connus,
Oui,
là. Ouais.
le plus sérieux, c'était Vladimir Guerrero. Et Vladimir Guerrero, c'était au point où ce qu'on était comme sur le billet d'avion.
Ah ouais, ok.
Ça, ouais. Vladimir Guerrero, il y a, je dirais, 5-6 ans. Et finalement, pour quelque raison que ce soit, je m'en souviens pas, il faudrait que Patrick me rappelle un peu là-dessus, là, me rafraîchisse la mémoire, là. Il est arrivé quelque chose où avec son agent, il est allé dans l'Atlantic League. Puis c'était une question de visa, je me souviens pas c'était quoi, mais ça n'avait pas fonctionné. On a eu osé comme Tseko que ça n'avait pas fonctionné.
Ah, tu l'as.
Dernière
Mais
minute.
Guerrero, ça a passé dans un, tu peux dire un cheveu.
Ouais, Guerrero. Non, Guerrero, c'était très, très proche. Guerrero,
OK.
ça aurait été. Et Guerrero, on parle là que c'est lorsqu'il avait 39, 40 ans,
Oh,
quelque chose comme ça. Il reste encore du jus en masse. Donc, c'était possible. Mais il y a eu. Oui, il y a eu d'autres joueurs que ça a passé proche comme ça. C'est sûr que de la trempe de Manny, ben là.
Ah, c'est sûr, c'est
Oh,
sûr.
là.
En tout cas, Michel, bonnes vacances, repose-toi bien, parce que tu l'as mérité beaucoup. Je sais que j'étais un petit peu tannant au cours des derniers jours, mais quand j'ai vu la nouvelle, comme tout le monde, je pense que j'ai sursauté. On va se reparler certainement au cours de l'année.
Il n'y a pas de trouble. Bon été à tout le monde. Puis on va revenir vite à l'ouvrage parce qu'il faut préparer la prochaine saison. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas essayé. On va se reprendre l'année prochaine.
Merci beaucoup, Michel. Le
Merci. Bye
président
bye.
des capitales de Québec, Michel.